Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, dans Histoire d'en savoir plus, nous allons parler d'une découverte qui bouleverse le paysage de la littérature française. Il s'agit de celle des feuillets disparus de Louis-Ferdinand Céline. Pour nous en parler, nous accueillons un écrivain libraire, également dramaturge et spécialiste de Céline, dont il a écrit une biographie « Je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple ». Il s'agit d'Émile Bramy, bonjour à vous. Alors, premièrement, Émile Bramy, quelle a été votre première rencontre avec l'auteur Céline ?
Ma première rencontre avec Céline date d'il y a bien longtemps, puisque c'était en 1967. À cette époque, je militais dans les milieux anarchistes, où Céline était un personnage très important. Et un jour, quelqu'un me donne quelques feuillets en me disant « voilà, ça devrait t'intéresser ». Il s'agissait de « À l'agiter du bocal ». Donc, je lis le texte, je trouve le texte très amusant, mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la manière d'écrire. C'est-à-dire que je découvre, ce jour-là, à la fois un écrivain et un style. Et à partir de ce moment-là, je cherche à lire ce qu'on peut trouver de cet écrivain que je ne connaissais pas du tout. Et, comment dirais-je, à l'époque, Céline était tout à fait au purgatoire, si bien que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres, excepté Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit. Et c'est à ce moment-là que j'entre dans le circuit des libraires d'anciens, des bouquinistes des quais, ce qui va être mon métier plus tard d'ailleurs, et ce sera une des raisons pour lesquelles je deviendrai libraire d'anciens. Et à ce moment-là, bon, je trouve d'autres textes de Céline. Mais lorsque je fais la découverte de Céline, je ne connais absolument rien, mais absolument rien de cet auteur.
Alors, plusieurs décennies plus tard, ce sont les feuillets disparus de Céline qui refont surface. Vous, je crois que vous avez pu les approcher.
Oui, j'ai eu la chance de les avoir entre les mains pendant un certain temps. Oui, j'ai vu un petit peu ce qui a réapparu il y a à peu près un an maintenant. L'annonce a été faite un peu plus tard, mais on savait que ces feuillets étaient ressortis il y a 11 mois exactement. Voilà, je les ai eus en main. Ben écoutez, c'est quelque chose de très impressionnant, puisque quand on est un des premiers à avoir la chance de lire des textes qui sont des textes qui étaient jusque-là réputés disparus, c'est une très grande émotion, évidemment.
Vous-même, je crois que vous avez cherché ces textes.
Alors moi j'ai cherché ces textes il y a déjà bien longtemps, puisque c'est à la toute fin des années 90. À cette époque-là, j'ai racheté au fils de l'avocat Tixier Vignancourt le dossier Céline, et dans ce dossier Céline, il y avait quelque chose qui était un peu périphérique au dossier lui-même, à savoir l'acteur Le Vigan qui se plaignait qu'on lui avait volé lors d'une perquisition de nombreux objets précieux. Et l'auteur de cette perquisition était désigné, il s'appelait Oscar Rosambly. Et cet Oscar Rosambly avait aussi fait une perquisition en 1944, chez Céline. Donc je me suis dit qu'il y aurait peut-être une corrélation entre la disparition des manuscrits de Céline et cet Oscar Rosambly. Et donc je me suis mis à la recherche de ce monsieur qui était mort à l'époque. J'ai retrouvé sa fille, et sa fille m'a dit qu'effectivement elle avait des choses qui appartenaient à Céline. Mais comme c'était un personnage extrêmement bizarre, nous n'avons jamais pu aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est-à-dire que la piste s'est arrêtée là, et moi j'étais persuadé, et je suis toujours persuadé, que les documents qui ont réapparu viennent de chez Rosambly.
Est-ce qu'on connaissait le contenu de ces manuscrits perdus avant de les retrouver ?
Non. Mais moi, ce que je recherchais, pour être tout à fait exact, c'était ce que nous ne connaissions pas, enfin la partie manquante de Casse-pipe et la légende du roi Krogold. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est beaucoup plus que ce que l'on pensait. C'est-à-dire il y a là-dedans des textes comme Londres, par exemple, qui est un roman qui a l'air complet, qui était totalement inconnu, dont personne n'avait jamais entendu parler. Il y a des chapitres de Voyage au bout de la nuit, dont on savait vaguement qu'ils avaient été écrits par Céline et qu'ils avaient été supprimés au moment de la publication du livre, mais on ne savait pas vraiment quels étaient ces chapitres. Il y a une version intermédiaire de l'oracle dit, il y a énormément de choses dans ce qui est revenu au jour.
Écoutez, je crois qu'on va prendre une courte pause musicale. Chers auditeurs, ne nous quittez pas, l'émission continue juste après cet intermède.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfecit. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessit. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et vous écoutez Histoire d'en savoir plus. Aujourd'hui, sur les textes perdus puis retrouvés de Louis-Ferdinand Céline. Toujours avec nous, Émile Bramy, écrivain, dramaturge, libraire et biographe de Céline. Alors, vous nous disiez, les textes contiennent des textes, les feuillets contiennent des textes dont on n'avait jamais entendu parler. Ils contiennent aussi la correspondance, des nouvelles, des brouillons. On commence à voir si les textes sont terminés ou non.
Non, si vous voulez, dans l'état actuel des choses, il y a à peu près 6 000 feuillets. Donc ces feuillets doivent être lus déjà. Vous savez que l'écriture de Céline est extrêmement, extrêmement difficile à déchiffrer, donc ça prendra du temps. Il faudra ensuite faire des comparaisons avec d'autres brouillons qui, eux, sont connus. Si vous voulez, pour l'instant, la connaissance qu'on a de ce qui est ressorti est une connaissance globale. Il va falloir bientôt entrer dans le détail, et ça va être le travail d'universitaires qui vont être mis à lire ces feuillets, à essayer de les resituer dans le contexte, à donner une date éventuelle de l'époque à laquelle ils ont été écrits. Bon, on sait que de toute façon, ils ont été écrits avant 1944. Donc, si vous voulez, non, il y a tout un travail aujourd'hui de recherche littéraire à faire, de lecture, avant qu'on puisse dire avec précisément ce qu'il y a. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a le manuscrit complet de la légende du roi Kobold, ça c'est certain, et il y a le fameux manuscrit de Londres. Donc, si vous voulez, ce dont nous sommes sûrs actuellement, c'est qu'il y a le manuscrit complet de la légende du roi Kobold, qu'il y a une version intermédiaire de Arcadie, qu'il y a aussi le fameux texte de Londres. Il y a deux nouvelles qui sont deux nouvelles inédites, plus des lettres, des correspondances, enfin, etc. Donc, certains textes, comme la fin de Caspide, par exemple, pourraient être publiés assez rapidement. Les autres textes supposent un travail technique, universitaire, avant publication.
Justement, par rapport à Caspip, donc qui devait Selon Céline, formait plus ou moins un cryptique, je crois, avec Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. En tout cas, Céline était à peu près de cette ampleur. On sait combien à peu près de pages ou de chapitres en fait devraient être ajoutés. C'est vraiment une toute petite partie qu'on a.
On connaît à peu près une petite centaine de pages du début de Casse-pipe. Et là, il y aurait, mais encore une fois, ce que moi j'ai pu voir, c'est feuillet pendant à peu près 1 heure. Donc, c'est un peu, enfin, je peux pas dire comme ça. Mais il semblerait, d'après ce qu'on m'a dit, que Casse-pipe serait à peu près complet. Voilà. Et si vous voulez, c'est effectivement, on va dire, la partie manquante entre Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Mort à crédit racontant l'enfance de Ferdinand. Ensuite, jusqu'à son engagement dans l'armée, Casse-pipe raconte donc son engagement dans l'armée et la caserne. Et on repart ensuite avec Voyage au bout de la nuit, qui lui raconte le début de la guerre. Voilà, donc si vous voulez, c'est Casse-pipe était la partie manquante entre Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit. Parce que les livres n'ont pas été publiés dans la chronologie réelle. Voyage au bout de la nuit raconte la guerre, et ça a été publié en premier, Mort à crédit raconte l'enfance et ça a été publié après Voyage. Donc, si vous voulez, la réapparition de Casse-pipe nous permettrait d'avoir toute la chronologie de l'enfance de Céline jusqu'à son départ à la guerre et l'Afrique et ce que raconte Voyage au bout de la nuit.
Alors, vous parliez aussi de la légende du roi Krogold, qui était presque un mythe jusqu'ici pour les Céliniens, parce que finalement,
Non, non, pas du tout.
pas du tout.
Non, non, c'était pas un mythe, non, non. En fait, Krogold est un livre qui était attesté. Lorsque sort Voyage au bout de la nuit avec le succès que l'on connaît, l'éditeur de Noël demande à Céline s'il a quelque chose dans ses cartons afin de continuer à surfer sur le succès de Voyage au bout de la nuit et de publier rapidement autre chose. Céline lui envoie la légende du roi Krogold. Et nous avons une lettre de Céline qui dit à de Noël, puisque vous ne voulez pas de la légende du roi Krogold, s'il vous plaît, rendez-moi mon manuscrit. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose qui était attesté par les lettres, par le refus de publication de l'éditeur de Noël et par la demande de Céline de récupérer son manuscrit. Donc, c'était pas du tout une légende. On savait que ce livre existait. Bon. Mais, mis à part quelques extraits qui se trouvent dans Mort à crédit et quelques feuillets qui ont été retrouvés par la suite, on n'en savait pas grand-chose. Mais on savait qu'il existait. Donc, c'était pas une légende et, si vous voulez, la réapparition atteste que ça n'était pas une légende.
Mais comment ce texte, qui est si différent finalement du reste des travaux de Céline, comment ce texte s'inscrit dans la continuité de son œuvre?
Non, il ne s'inscrit pas du tout dans la continuité de son œuvre. C'est-à-dire que Céline dit, dans un certain nombre de lettres, que lui, son goût, ce qu'il aime écrire, ce sont des légendes celtiques. Et Krogold est une légende celtique, avec tout ce que ça suppose de chevaliers, de châteaux, enfin de choses comme ça. Et ça n'a rien à voir, enfin, ce que nous en connaissons jusqu'à présent, n'a rien à voir avec le reste de l'œuvre de Céline. Donc, si vous voulez, il faut voir ça comme quelque chose qui est un peu à part, mais qui est en même temps ce que Céline aimait à écrire.
Également, parmi les textes découverts, on a Mille feuillets qui forment un roman dont on n'avait jamais entendu parler. Londres, donc Londres, c'est un roman à part. Vous confirmez?
Oui, alors.
C'est pas l'ébauche de Guignol's Bande qui se passe lui aussi à.
Non, 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 non. Ça semble être, alors je confirme, sur le peu que j'ai vu. Moi, j'ai regardé essentiellement Londres parce que effectivement, c'était la chose inconnue qui réapparaissait de manière tout à fait étonnante. Alors, Londres, déjà, on peut, enfin, sur ce que j'ai pu voir, on peut assez facilement le dater, parce que chez Céline, il y a trois écritures, trois graphies différentes, et Londres appartient à la première graphie. Graphie qui disparaît aux alentours de 1936. Et puis, certaines pages ont été écrites sur des ordonnances d'une certaine époque. Donc, on peut assez facilement le dater. À mon avis, il a été écrit à la fin de Voyage au bout de la nuit, donc aux alentours de 1932 jusqu'à 34-35. Et c'était vraisemblablement pendant que Céline rédigeait Mort à crédit. Voilà. Et si effectivement il est question de Londres, ça semble, pour le très peu que j'ai vu, ça semble différent de Vigneault's Bande, même si ça parle des mêmes choses. Mais là encore, il y a tout le travail de lecture à faire sur ce texte avant de pouvoir être plus affirmatif. Pour l'instant, c'est juste des survols. Ce sont des textes qu'il faut étudier pour les remettre dans leur contexte, pour voir ce qu'ils disent, pour essayer de savoir précisément quand ils ont été écrits. Mais en tout cas, sur le peu que j'ai vu, Londres, même s'il parle de la même chose que Vigneault's Bande, semble en différer.
Céline, dans ses correspondances, il parle d'une espèce de trilogie avec enfance, guerre et Londres. Est-ce que la découverte de Londres, ça implique deux autres romans qu'on n'a pas trouvés, ou alors ces romans-là ne sont autres que Mort à crédit et Le voyage au bout de la nuit?
Non, c'est au moment de la rédaction de Voyage au bout de la nuit. On a des lettres dans lesquelles Céline dit à divers correspondants, voilà, je suis en train de terminer mon roman, il est beaucoup trop gros, donc je vais retirer des épisodes qui se passent à Londres et que j'écrirai plus tard. Jusqu'à présent, on pensait que ce livre n'avait pas été écrit, et que il avait été écrit un petit peu plus tard et qu'il avait été publié sous le titre de Vigneault's Bande. Il semble bien qu'en fait ce livre ait été écrit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Céline n'en ait jamais fait état. On n'a pas de d'indication jusqu'à présent disant qu'il est en train d'écrire ça. Alors peut-être ça lui a semblé insuffisant, inintéressant, pas publiable à ce moment précis. On ne sait pas pourquoi, donc ce livre est resté en l'état et n'a jamais été proposé. Et ensuite, pour continuer sa, on va dire, sa saga biographique, il écrit Vigneault's Bande, qui est la suite enfin, c'est la partie qu'il n'a pas mise dans Voyage au bout de la nuit et qui pourtant appartient à sa biographie. Donc, si vous voulez, il va falloir lire Londres soigneusement et savoir pourquoi ce texte n'a pas a été mis de côté par Céline.
Je crois qu'il y a également un autre extrait de texte, en tout cas, qui a été retrouvé sur un feuillet qui serait intitulé Guerre. Qu'est-ce qu'on sait sur cette ébauche?
Alors, guerre, c'est pas une ébauche. Là encore, je parle au conditionnel. Il semblerait que ce soit un certain nombre de chapitres, sept, si je me souviens bien, qui reprennent la période de la guerre et qui ont été là aussi retirés de Voyage au bout de la nuit. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que à l'époque où Céline publie Voyage au bout de la nuit, c'est un très gros roman, hein. Ça fait pas loin de 600 pages. Et un des problèmes liés à la publication, ça a été justement le volume du livre. Donc, il est assez naturel que Céline, pour pouvoir publier quelque chose qui soit, on va dire, d'un volume raisonnable, ait retiré un certain nombre de chapitres. Donc, vraisemblable. Alors, Guerre n'est pas un ouvrage à part, hein, contrairement à Londres, mais ce sont des chapitres qui ont été retirés de Voyage au bout de la nuit et qui parlent pour l'essentiel de la période qui suit sa blessure et de son hospitalisation.
Très bien, eh bien, écoutez, nous allons devoir nous quitter de nouveau pour un interlude musical. Nous nous retrouvons avec notre invité pour de nouvelles questions dans Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, mais vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous écoutez Histoire d'en savoir plus. Nous discutons des textes perdus de Louis-Ferdinand Céline, retrouvés récemment avec Émile Bramy, écrivain, libraire et spécialiste de cet auteur. Alors, vous nous disiez qu'il fallait faire un travail de relecture pour savoir si ces textes sont publiables ou pas. Ça pose une question, finalement, parce que Céline, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup... retravailler les textes, on ne peut pas savoir comment il aurait voulu qu'ils soient publiés.
Non, on ne peut absolument pas savoir, mais le problème s'est déjà présenté au moins deux fois, puisqu'on a publié un posthume qui s'appelait Rigaudon. Rigaudon que Céline termine la veille de sa mort. Donc le manuscrit était, d'après ce qu'il disait, complet, mais on sait que Céline retravaillait ses manuscrits. Donc Rigaudon, qui a été publié, on est incapable de dire aujourd'hui si c'était exactement ce que aurait publié Céline. On a publié aussi un inédit qui s'appelait Le Pont de Londres, et qui en fait était composé par trois fragments qui ont été dans la première publication associé, on va dire, de la manière la plus probable, mais sans que personne ne puisse dire que c'était vraiment ce que voulait Céline, ni même si Céline aurait accepté que l'on publie cela. Donc, si vous voulez, tout ce qui va être publié bientôt, et vraisemblablement tout ce qui réapparu sera publié, ne sera pas ce qu'aurait voulu Céline. Céline avait l'habitude de retravailler ses textes, de les travailler avec sa secrétaire Marie Cavanadia, et donc, l'un et l'autre ayant disparu, il est évident que ça ne correspondra pas à ce que Céline aurait publié. Mais, en même temps, c'est une découverte tellement importante, c'est quand même 6000 feuillets d'un des écrivains majeurs du XXe siècle, toutes langues confondues, tout sera évidemment publié, je pense, de la manière la plus juste possible. Et c'est pour ça qu'il faut que des spécialistes, des universitaires se réunissent, travaillent ces textes et proposent on va dire, à la publication la meilleure des versions possibles aujourd'hui dans l'état de notre connaissance, de la manière d'écrire de Céline et de la façon qu'il avait de publier ses textes.
D'après vous, est-ce qu'il est possible que finalement il nous manque encore des fragments de Céline ? Est-ce qu'on n'est pas à l'abri, disons, de nouveaux textes retrouvés ?
Alors, de nouveaux textes retrouvés pour cette période-là, c'est-à-dire pour la période qui va de, on va dire, du moment où Céline se met à écrire sérieusement, c'est-à-dire 1928-1929, jusqu'en 1944, donc sur une période d'une quinzaine d'années, il est probable que non. Il est probable que non, pour une raison très simple, c'est que on sait à peu près le temps que prenait Céline pour écrire, comment il écrivait, enfin, etc. Donc, avec ce qui est réapparu, on va dire que ça bouche à peu près tous les trous. Il est peu probable qu'il y ait d'autres choses. Ce qui peut se retrouver dans la nature, ce sont des brouillons, des choses comme ça. Mais des textes aussi importants, je ne crois pas. Pour la période suivante, c'est-à-dire pour la période qui va de 1945 à la mort de Céline, bon, je pense que tout a été publié puisque les deux inédits, Rigaudon et Le Pont de Londres, l'ont été. Donc, si vous voulez, à mon avis, aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas rien d'important, rien de majeur, quelques pages de brouillon peut-être. Par contre, ce qui pourrait apparaître, ce sont des correspondances. Ça, c'est encore possible. Mais du point de vue, on va dire, romanesque, je ne crois pas.
Et enfin, selon vous, Céline, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire de nos jours ?
À nous apprendre, je pense, rien. Mais ce qu'il a à nous apporter encore aujourd'hui, je pense que c'est une manière d'écrire. Si vous voulez, le Céline, il est comme tous les artistes exceptionnels. Je ne veux pas employer le mot génie parce que ça ne veut plus rien dire. Mais comme tous les artistes exceptionnels, c'est quelqu'un dont la littérature n'existe pas avant, c'est-à-dire qu'il invente quelque chose, et n'existe plus après avec sa disparition. Mais c'est quelqu'un qui a ouvert des voies. C'est quelqu'un qui a, par exemple, dit « on peut écrire dans un langage qui serait un langage plus proche du langage parlé que du langage littéraire classique ». Voilà. Et ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui, c'est dans ce domaine-là, c'est dans le domaine de la littérature, du style, par l'apport d'un peu plus que ce que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui. Mais Céline n'a jamais été un homme d'idées. Il le disait lui-même, il disait « moi je n'ai pas d'idées ». Ce n'est pas quelqu'un qui a un regard sur le monde. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a un regard philosophique sur le monde. C'est quelqu'un qui raconte son histoire. Donc si vous voulez, l'apport de Céline est un apport essentiellement stylistique. C'est pas quelqu'un qui nous amène à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, sur les transformations de ce monde, etc. C'est quelqu'un qui nous, donne une certaine forme de plaisir très particulier à sa lecture.
Bah écoutez, merci beaucoup. Notre émission touche à présent à sa fin. Merci à nos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Si vous avez raté une partie de l'émission, vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet. Au revoir, Émile Bramy, et à nos auditeurs, je vous dis bientôt sur Radio Grand Ciel.